Bonjour à toutes et tous, c'est Valentine pour l'émission 3 en 1 sur Canal B 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade farce.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une des grandes régions françaises, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur?
Il y a les villages.
On n'a pas de mémoire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Résistance. Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité sur Canal B. Il est 12h15 et nous sommes vendredi 1er mai. Bonne fête du travail à toutes et tous. À journée spéciale, thématique spéciale, puisque le travail, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette émission. Et nous avons pour ça accueilli Lou Michel et Éloane Blandin, coordinatrices de l'association Séisme, structure d'accompagnement professionnel pour les jeunes. Avec eux, nous amenons une réflexion autour de la Gen Z au travail, une génération en quête de sens. C'est à retrouver en deuxième partie d'émission. Manon, tu t'es questionnée sur les différents aménagements du temps de travail et tu es allée, il me semble, interroger quelques Rennaises et Rennais à ce sujet.
Exactement, je vais vous parler de deux modèles, dont un qui est déjà bien implanté dans quelques pays d'Europe. Le second, vous allez voir, donne envie.
Hâte d'en savoir plus. Et pour débuter, Julie prend la parole sur une actualité très à propos. Vous en avez certainement entendu parler, une loi concernant la possibilité de travailler le 1er mai est passée à l'Assemblée. Julie, tu reviens sur la symbolique forte de cette date et les enjeux cachés derrière.
Et oui, et si certains et certaines appellent ce jour la fête du travail, c'est en réalité la journée de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses. Créée aux États-Unis à la fin du 19e siècle par les travailleuses qui militaient pour des meilleures conditions de travail. Parmi ces revendications, la journée de 8 heures, et le mouvement s'est alors étendu en Europe. Et la répression, elle, a suivi. En 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, un massacre a eu lieu et une dizaine de grévistes pacifistes, dont deux enfants, ont été tués par la police lors de la manifestation du 1er mai.
Et ce sont évidemment les grévistes qui ont été jugés et pas les forces de l'ordre qui ont tiré sur la foule.
Et cette tradition de manifester le 1er mai est restée et autre ironie du sort, c'est Pétain qui a fait de ce jour un jour chômé et férié. La journée de lutte pour les travailleurs et travailleuses est alors devenue la fête du travail et de la concorde sociale. Et finalement, ce n'est pas si étonnant quand on sait qu'il a fait ça pour sacraliser le dévouement au travail. Une mesure qui rentre tout à fait en accord avec sa ligne éditoriale « Travail, famille, patrie ».
Et cet effacement de la lutte des classes sociales continue depuis.
Oui, c'est désormais une fête du travail pour celles et ceux qui aiment le travail, comme le dit Sarkozy et comme l'a répété Macron. Aujourd'hui, c'est Gabriel Attal qui prend ses mots avec le projet de loi porté par son parti Renaissance. Il propose une loi qui permet aux boulangers et aux fleuristes de faire travailler leurs employés le 1er mai. Ils seraient payés doublement et tout ça sur la base du volontariat. Mais tout ça pose quand même problème, notamment pour les syndicalistes français. La CGT parle de banalisation du travail le 1er mai. En plus de négliger toute l'histoire de la mobilisation et de la lutte derrière cette journée, le gouvernement semble totalement ignorer ce qui se cache derrière le volontariat. Au final, refuser de travailler un jour férié, c'est prendre le risque de s'exposer à des représailles, une chose que beaucoup de personnes, notamment celles précaires, ne peuvent pas se permettre. Les salariés seraient donc en pratique contraints d'accepter de travailler le 1er mai. Et cette dépolitisation se fait également ressentir lors des manifestations. Quel dispositif existe-t-il encore pour ces voix, pour qu'elles continuent de lutter pour les droits des travailleurs? Comment ces événements sont-ils encadrés? Et enfin, comment sont-ils relatés par les grands médias?
Merci Julie de nous rappeler l'importance de cette journée de défense des droits des travailleuses et travailleurs. Puisque oui, cette journée reste une journée militante. Et tout de suite, un groupe qui accompagne nos luttes en musique depuis quelques années maintenant.
La mélodie apaisante des touches de glace. tournois de mini ping-pong.
Les Vulves Assassines nous souhaitent la bienvenue dans leur Open Space, un titre issu de l'album Vulcané Rock'n'Rolla, dernier né du duo anarcho-punk sorti il y a 8 jours. Que veut la Gen Z ? Ces jeunes nés entre 1998 et 2010, sont-ils en quête de sens ? Et si oui, comment ? Une question qu'on a posée à Éloane Blandin et Lou Michel, coordinatrices de l'association d'accompagnement jeunes Séisme. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Valentine.
Alors Séisme, une association créée en 2021, un point de départ peu commun, un film nommé Rupture, où l'on suit 6 jeunes formés en grandes écoles, en rupture avec le système pour lequel ils ont été formés. Et de ce film naît une idée, celle d'aller plus loin pour aider les jeunes en quête de sens professionnel. De là naît la dynamique et le projet Séisme voit le jour. Alors de quoi parle-t-on exactement quand on évoque une quête de sens professionnel ?
Peut-être pour revenir rapidement sur l'association Séisme, effectivement, c'est né à la suite du documentaire Rupture qui a été réalisé par Hélène et Arthur, du coup les cofondateurs et cofondatrices de l'association. Et donc suite à ça, le projet Séisme est né avec notamment le forum Séisme, duquel je suis le coordinateur, pour apporter des réponses justement à ces jeunes qui étaient en quête de sens. Donc, ce sont principalement des jeunes qui font des études et qui ne se retrouvent pas forcément dans les métiers qui leur sont proposés par la suite, pas forcément dans les structures qui peuvent les accueillir. Et donc le forum est arrivé un peu comme une réponse à ça dans un premier temps, pour montrer des structures et des métiers engagés qu'on peut réaliser partout en France et notamment en Bretagne. C'est un des principes et des volontés du forum de montrer qu'on peut s'engager ici et qu'il n'y a pas forcément besoin de partir pour trouver des structures et des emplois chouettes.
Et donc quand on parle de travail engagé, qu'est-ce qu'on entend vraiment par ça ?
Alors nous on parle de métiers durables et du coup c'est se dire que ces métiers qui vont avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. Donc pas que des métiers qui vont avoir des voies écologiques mais aussi des métiers qui vont avoir un impact social fort.
Et est-ce que les nouvelles générations sont particulièrement sensibles à ces enjeux ?
Le sens du travail c'est de plus important en tout cas pour notre génération. C'est en augmentation chez les jeunes de 15 à 30 ans. C'est important pour 28% de ces jeunes et contre 14% des actifs de plus de 30 ans.
Pourquoi, selon vous, cette génération est plus sensible ? Est-ce que c'est lié au fait d'être né dans des situations de crise environnementale ? Enfin, qu'est-ce qui fait que ces générations-là, qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, sur ce sujet ?
Je pense que ça joue pas mal, en fait, comme tu viens de dire, le fait d'être né dans ces générations où on parle beaucoup des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des personnes qui sont nées au siècle dernier, c'était pas dans les questions principales que se posaient les jeunes. Aujourd'hui, est-ce que le travail que je vais faire, il existera encore dans 20 ans ? C'est des questions qu'on se pose que se posait pas forcément la génération de nos parents, je pense.
Est-ce que la jeune génération est plus exigeante aussi en termes de conditions, de reconnaissance liées au travail ?
Je pense un petit peu plus exigeante dans le sens où maintenant, la jeune génération, elle va chercher aussi à avoir un peu un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Un peu plus lucide, oui, sur la réalité de la crise écologique et de la crise sociale. C'est un peu un équilibre de trouver un peu nos luttes. Comment est-ce qu'on peut s'investir dans le monde du travail en lien avec nos convictions, quoi.
Et quand vous entendez donc quête de sens, qu'est-ce que ça veut dire, vous, concrètement, dans vos actions ? Ce que vous faites avec Séisme et dans vos échanges avec les jeunes.
Du coup, nous, à Séisme, on propose deux principales activités, le forum et le pôle pédagogique. Concrètement, lors du forum Séisme qui a lieu tous les ans au mois d'octobre, on va présenter aux jeunes une centaine de structures de différents secteurs d'activité qui agissent concrètement pour rendre la société et le monde plus durable. Donc ça va être des professionnels du secteur de l'énergie qui vont travailler de manière durable. Ça va être des secteurs de l'agroalimentaire, pareil, qui vont avoir des pratiques plus résilientes, plus robustes. Ça va être des secteurs de la mobilité, des mobilités douces qui vont être prônées. Plusieurs professionnels de tout secteur d'activité et après différents formats de prise de parole et de témoignages pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux et pour apporter une forme d'expertise sur les nouveaux métiers et les manières de les pratiquer.
Et vous pensez qu'il y a un manque d'informations à combler concernant ces métiers, ces vocations, fort engagement sociétal ?
Oui, enfin, moi, du coup, sur le pôle pédagogique, l'idée, c'est de créer des outils pédagogiques pour sensibiliser les jeunes, plus collégiens, lycéens, à aller vers ces métiers, en tout cas à les découvrir. Donc on propose des ateliers dans ces structures, dans les structures jeunesse. Et on voit que c'est des thématiques liées aux transitions qui sont un peu abordées, mais pas directement liées à l'orientation. Voilà. Et puis, de manière plus générale, on voit aussi qu'on recense un peu des problèmes liés à l'orientation. Enfin, on observe un peu une orientation forcée, un choix d'orientation qui peut arriver un peu trop tôt. Et on voit aussi qu'on ressent que les jeunes ont aussi le sentiment qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur dans leur parcours professionnel. Donc nous, l'idée, c'est aussi de dire qu'on a le droit de se tromper, on a le droit d'expérimenter plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers, et de découvrir, quoi.
Et alors, comment les politiques publiques, selon vous, pourraient davantage accompagner ces jeunes vers les métiers qui font sens ?
Pour le coup, je pense que nous, à Rennes, on est assez chanceux là-dessus, avec des politiques jeunesse qui se mettent en place. Mais ce serait de sensibiliser et de tenter d'orienter encore plus, parce que ce dont on se rend compte avec Lou, notamment lors des interventions, c'est qu'il y a quand même des demandes de la part des établissements pour orienter et accompagner les jeunes dans leur orientation et vers des métiers durables. Donc ça pourrait être de mettre en place encore plus d'ateliers, encore plus de temps pour les jeunes, pour les questions d'orientation et notamment vers les métiers durables.
Et tout à l'heure, tu parlais, Lou, de l'équilibre aussi recherché par la jeune génération entre travail et vie professionnelle. Est-ce que ça s'exprime aussi à travers une recherche de certaines conditions de travail ?
Oui, je pense. Les jeunes, maintenant, ont envie d'avoir des heures convenables. Enfin, le rapport au travail a un peu changé, dans le sens où maintenant, les jeunes, ils font plus du travail une obligation morale, mais ils vont plus trouver du sens dans le travail en lui-même et dans les missions. Et donc je pense, oui, les conditions de travail, ça va être d'avoir des bonnes horaires, peut-être de pas trop faire d'heures supplémentaires, parce que on recherche plus un équilibre vie pro, vie perso.
Est-ce que vous remarquez un décalage entre ce que veulent les personnes que vous accompagnez et les réalités professionnelles dans lesquelles ils se sont confrontés ?
Alors un petit peu, nous quand on travaille avec des publics qui sont un peu plus éloignés de l'emploi et de la formation, c'est un peu plus compliqué de parler de ces métiers durables parce que pour eux, la première étape, c'est d'abord de trouver du travail. Donc nous, on est là aussi pour préciser que l'objectif premier, c'est pas d'avoir un travail durable pour sauver le monde, pour sauver la planète, mais c'est de dire qu'en tout cas, ça existe. Et nous, on cherche aussi à casser les stéréotypes autour de ces métiers, de dire que l'idée, c'est de les rendre accessibles pour toutes et tous. Donc oui, en fait, ça peut créer un petit gap, on peut observer un petit gap. On travaille à justement faire en sorte d'expliquer ces notions, qu'elles soient compréhensibles pour atténuer cette différence.
Thank you.
C'était le duo synth-pop ultra-moderne avec leur titre « Les nouvelles usines » issues de leur album « La performance est vulgaire » sorti il y a 5 ans et toujours aussi pertinent. Vous êtes toujours dans 3 en 1 sur Canal B 94 FM. Retour auprès d'Éloine Blandin et Lou Michel de l'association Séisme pour comprendre les attentes de la Gen Z concernant leur avenir professionnel.
Tu parles de stéréotypes liés aux métiers qui ont du sens. Hein. Donc, je rappelle que ce sont des métiers à forte valeur ajoutée pour la société. C'est de ça dont on parle. Ces stéréotypes, quels sont-ils ?
Il y en a quelques-uns, notamment liés aux études, je pense, que certains métiers durables ne seraient accessibles que pour des personnes qui auraient fait des études, justement. Et c'est ce que Lou cherche à faire à travers le pôle pédagogique, notamment en allant vers des jeunes peut-être éloignés de la formation ou des publics plus jeunes, pour montrer qu'en fait, il y a plein de métiers qui sont disponibles à tout niveau et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études en licence ou en master pour faire certains métiers.
Est-ce que le monde du travail tel qu'il est actuellement dans de nombreuses structures, il est adapté aux jeunes et à ce que les jeunes souhaitent ?
Pas forcément. Nous, on a la chance de travailler dans le milieu associatif, mais ça représente qu'un emploi sur 10 en Bretagne, enfin le monde de l'ESS, et qu'il y a peut-être trop encore d'emplois qui sont régis par le monde économique, avec un objectif de productivité dans lequel pas mal de jeunes ne se retrouvent pas forcément. Et donc là, peut y avoir des contradictions qui apparaissent. C'est peut-être quelque chose qui serait bien de faire évoluer un petit peu plus, de sortir du modèle ultra productiviste et capitaliste.
Est-ce que vous avez déjà observé, parmi des jeunes que vous accompagnez, des désillusions aussi par rapport à des métiers qui font sens ? Et peut-être des retours en arrière vers, on va dire, une vie professionnelle plus classique ?
Pas forcément pour le moment. Nous, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on les observe, justement, de voir, et là, peut-être sur des moins jeunes, mais des personnes qui arrivaient à la trentaine, enfin, ça reste jeune, mais qui ont pu faire un emploi pendant 10 ans et qui, au final, ne se retrouvent plus du tout dans cet emploi-là et bifurquent totalement pour retourner vers... du travail manuel, de l'agriculture, enfin ça peut être toutes sortes de choses, de l'artisanat, mais voilà, des personnes qui bifurquent pour retourner vers des métiers qui font sens et ancrés dans le réel, quoi.
Et est-ce que vous pensez que cette quête de sens, elle est tenable dans le futur ?
Je pense que c'est en constante augmentation. et je pense que plus ça va aller, plus les jeunes vont être en quête de sens. Surtout qu'on sait qu'on ne connaît pas encore les métiers de demain. Là, nous, ce qu'on cherche aussi à faire à Séisme, c'est de former les jeunes, de leur montrer qu'il existe des métiers, de aussi apporter des notions liées aux transitions sociales et environnementales. Et de leur montrer que oui, on peut s'investir via son travail.
Et pour des milieux qui ne sont pas forcément ceux qui nous viennent en tête, alors moi quand j'entends métier à forte valeur ajoutée, métier de sens, je pense au social, à l'associatif, à l'environnement, comment d'autres secteurs peuvent aussi donner du sens à leur activité ?
Là peut-être Lou, tu pourras répondre mieux que moi, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tous les secteurs vont être impactés en fait par les crises sociales et environnementales et que justement il faut peut-être aller plus loin il n'y a que certains métiers en fait qui vont permettre de faire évoluer les choses positivement, qu'en fait tous les secteurs vont être amenés à se transformer, mais se transformer radicalement, que ce soit les secteurs de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, enfin voilà, je ne sais pas si tu veux compléter Lou, mais...
Ouais, carrément, et donc nous dans nos ateliers, dans les outils qu'on propose, en fait on vient montrer un peu une grande diversité de métiers qu'on peut faire, on a répertorié 16 secteurs d'activité, donc là par exemple dans le secteur du commerce et de l'économie, on présente plusieurs profils, dont une vendeuse en épicerie solidaire, un peu pour dire que dans ce secteur-là, on peut trouver un peu de durabilité.
Et donc, Éloïne, tu parlais du secteur aussi de l'industrie, de la santé, enfin des secteurs qu'on n'imagine pas forcément quand on parle de quête de sens professionnel. Est-ce que ces entreprises sont prêtes à s'adapter à cette nouvelle génération en quête de sens et à adapter peut-être leurs pratiques ?
En fait, au-delà de est-ce qu'elles sont prêtes, je pense qu'à un moment donné, elles ne vont pas avoir le choix non plus, parce que les jeunes, ils vont arriver avec des exigences. Et puis, en fait, même... Au-delà des jeunes, genre une entreprise qui travaille avec certaines ressources, bah on voit qu'avec le changement climatique, il y a certaines ressources dont on bénéficie moins. Enfin, je pense à l'eau notamment, ça va être plus compliqué de travailler avec l'eau. Et il y a beaucoup, beaucoup d'industries qui travaillent avec. Donc c'est comment on arrive à transformer nos modèles radicalement pour proposer des alternatives durables au monde de l'industrie notamment.
Donc les entreprises n'auront pas le choix que de s'adapter finalement aux attentes de cette nouvelle génération qui semble faire bouger les choses à travers leur quête de sens personnel aussi. Alors on observe un regain, vous avez dû en entendre parler, pour les « boring jobs ». Entendez jobs ennuyeux, c'est-à-dire des métiers d'application pure, sans charge mentale en dehors des heures de travail. Comment expliquez-vous ce paradoxe alors qu'on vient de parler justement de quête de sens ?
Je pense que c'est en lien avec ce que Lou disait tout à l'heure sur l'équilibre vie pro-vie perso. Quand la vie pro ne va pas forcément bien, peut-être qu'on a envie d'un job où on fait pas grand-chose, mais si on s'ennuie au travail, mais qu'on a beaucoup de temps à côté, on va trouver au final une forme d'équilibre. Mais nous, c'est pas forcément ce qu'on prône. Nous, ce qu'on va prôner, c'est d'être bien et dans la vie pro et dans la vie perso. Et si c'est possible, c'est le top.
Et alors, est-ce que avoir une profession qui a du sens, c'est nécessairement avoir une charge mentale supplémentaire ? C'est nécessairement être dans un métier à responsabilité ?
Je pense pas. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans les témoignages qu'on propose. C'est ce qu'on disait, ça va pas être que des personnes qui ont fait de longues études, qui vont avoir des rôles de manager et tout ça. Ça va être aussi des jobs accessibles avec des études plutôt courtes, où là... oui, peut-être qu'on peut dire qu'il y a un peu moins de charge mentale. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce n'est pas nécessaire en tout cas.
Qu'aimeriez-vous observer comme évolution, vous personnellement, d'ici 10 ans ?
Je pense que ce serait que les entreprises prennent plus en compte les dimensions sociales et environnementales et aussi prennent plus en compte les salariés et les conditions de travail. D'avoir un environnement sain au travail, je pense que c'est super important et c'est une condition maintenant pour les jeunes générations.
Et peut-être que pour certaines structures, ça passera par des changements de modèle aussi, passer sur des entreprises coopératives avec beaucoup plus d'horizontalité et moins de rapports hiérarchiques qui peut freiner aussi certains jeunes, je pense, dans l'entrée dans le monde du travail aujourd'hui.
On souhaite des entreprises plus vertueuses. De toute façon, il faudra tendre vers ça pour pouvoir séduire les travailleurs et travailleuses de demain. Merci Lou Michel et Éloïne Blandin d'être venus ici à Canal B pour nous présenter un petit peu Séisme et toutes vos actions pédagogiques autour de la quête de sens des jeunes générations dans leur vie professionnelle. Merci beaucoup à vous pour ce temps-là.
Merci. À toi. À très bientôt.
Une génération qui redéfinit les codes professionnels, si bien que les entreprises en ont parfois peur. Mardi 27 avril, une entreprise suisse a été épinglée après avoir indiqué « no Gen Z » sur une fiche de recrutement. Malgré les clichés et réticences dont elle est victime, cette génération semble bien prête à continuer à faire bouger les lignes. Équilibre vie professionnelle et vie personnelle, aménagement du temps de travail, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues de Rennes pour connaître votre avis. Manon, on a profité pour re-questionner la semaine à 4 jours et autres dispositifs d'aménagement, notamment dans d'autres pays.
Oui, des pays ont révolutionné leur mode de vie depuis déjà de nombreuses années. C'est le cas notamment de l'Islande, premier pays à avoir testé la semaine à 4 jours en 2015. Des semaines de 35 à 36 heures sur 4 jours au lieu de 40 heures sur 5 jours. Après des tests concluants, le projet a finalement été officialisé en 2019. Et en 2025, près de 90% des employés islandais bénéficient d'une semaine de travail réduite à 36 heures, sans perte de salaire.
Quel bilan suite à cet essai ?
Globalement, les Islandais et Islandaises ont une meilleure satisfaction au travail, davantage de moments pour profiter de leur temps libre, un maintien, voire même un gain de productivité, et aussi une meilleure implication des hommes dans leur vie familiale. Alors on s'est demandé si les Rennais et Rennaises étaient prêts et prêtes à passer à leur tour à la semaine à 4 jours, et voici quelques retours.
Je travaille, je suis en CDI et la semaine à 4 jours, moi je suis pour. Ça nous ferait gagner du temps en famille et c'est vrai que notre génération, donc moi j'ai 36, bientôt 37, on a envie d'avoir ce temps avec nos enfants, nos conjoints.
Ouais, je travaille en 4 jours et ça fait un peu plus de fatigue peut-être. Se lever plus tôt et terminer plus tard le travail. Mais après, j'ai 3 jours off, donc là, je peux plus poser des vrais moments et du coup avoir une vraie vie en dehors du travail.
Pareil, au niveau de l'intensité du travail, je pense que ça dépend des secteurs d'activité. Au niveau de la pénibilité du travail aussi, je pense que c'est plus dur d'encaisser une journée de 9h, 10h avec des travaux, on va dire, des travails dans des secteurs physiques.
Et globalement en France, où en est-on de la semaine à 4 jours ?
Eh bien, plusieurs entreprises ont déjà fait ce choix, mais ce n'est pas encore devenu une généralité. Il y a quelques questions qui persistent sur ce système, et notamment à propos de la rémunération. Il y a 3 possibilités qui s'offrent aux actifs et actives français. Selon un rapport d'information déposé par la Commission des affaires sociales, la première possibilité est de travailler 35 heures sur 4 jours, soit 8h45 par jour, tout en gardant la même rémunération. La deuxième possibilité est de travailler 32 heures sur 4 jours, avec une réduction de la rémunération. Et la troisième et dernière possibilité est donc de travailler 32 heures sur 4 jours, mais en gardant la même rémunération. En janvier 2026, on comptabilise 11 pays qui avaient déjà testé cette semaine à 4 jours, principalement en Europe, donc par exemple en Allemagne ou en Belgique, mais aussi dans d'autres régions du monde, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou encore en Nouvelle-Zélande. Chaque pays a ses propres normes, réduction du salaire ou maintien du salaire, baisse du temps de travail ou non. Le bilan global reste le même, une hausse de la productivité.
Et existe-t-il d'autres systèmes de ce genre qui bouleversent un petit peu les normes du monde du travail ?
Eh bien Valentine, est-ce que tu savais que Baptiste Milondo, économiste, parle de la journée à 3 heures ?
Non, je n'étais pas au courant.
Eh bien oui, la journée à 3 heures est donc la semaine à 15 heures. Il était d'ailleurs présent lors d'une des conférences du festival Nos Futurs qui avait lieu à Rennes, un temps d'échange intitulé « Et si on travaillait 3 heures par jour ?» Moins de travail donc, mais plus de temps pour s'occuper de soi, des autres, avec notamment du bénévolat, aussi pour se former, faire du sport, se reconnecter avec la nature. Ce serait aussi produire moins et consommer moins, la nature nous dirait aussi merci.
Des questions et des pistes de réflexion, le rapport au travail, on le voit, est en train de se redéfinir pendant que la politique du travail française tend vers un durcissement, un bras de fer idéologique qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et de notre côté, rassurez-vous, cette émission a été enregistrée hier. Bonne manifestation du 1er mai à toutes et à tous. Rendez-vous cette année ce dimanche 3 mai rue de Saint-Malo pour la traditionnelle fête de la paresse. Et 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Manon, Julie et Valentine pour une édition spéciale Travail. Tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur 94 FM à 8h15.